Je vais juste faire deux petits éléments de contexte. Donc, je vous présente Baptiste Pilot. Je l'ai rencontré il y a 2 ans, c'est ça Baptiste ?
Décembre 2020, la soutenance. Ouais.
Et donc, il y a un gros malentendu, comme je m'appelle Solveig, on me met au jury de toutes les thèses en black metal parce qu'on pense que je suis norvégienne. Le dernier collègue me demande même si je préférais parler en norvégien. Donc, je lui ai dit pas du tout. Mais en revanche, comme j'aime la musique et que ça concerne quand même les musiques populaires, j'ai accepté bien volontiers. C'était un jury de thèse un peu spécial, c'était en plein Covid. Donc on était chacun chez soi et à la fin Baptiste, qui a brillamment soutenu sa thèse d'un air tout triste, dit bon bah maintenant je vais boire un coup de champagne avec mon chat. C'était hyper triste et j'avais trouvé la thèse très très bien et j'en ai parlé à Luc et on a décidé de la faire paraître dans notre collection. D'autant que, on va en reparler, mais ce qui m'a beaucoup beaucoup intéressée dans le travail de Baptiste, c'est que on a retrouvé énormément de choses dont on parle sur le punk, mais dans un autre pays, dans un autre contexte, avec une autre musique. Mais en réalité, le processus de très underground et puis qui finit par monter très vite dans le mainstream, la subculture juvénile très très forte qui finit par être largement partagée. Il y avait vraiment des caractéristiques très fortes, y compris autour des salles, des maisons de disques, etc. Et donc c'était passionnant de voir comment d'autres musiques finalement et d'autres contre-cultures suivaient les mêmes chemins que la contre-culture qui nous intéresse d'habitude. Je précise par ailleurs que, comme a dit Baptiste en rigolant qu'on allait parler des fascistes, c'est un livre, il y a certaines pages, on s'est demandé avec Luc si on allait les éditer. Ça parle d'antiféminisme, d'antisémitisme, ça parle d'homophobie, enfin c'est un idéal extrêmement fort. C'est des gens qui, c'est un peu comme le punk pour le coup, pour qui la musique n'est pas qu'un mot, qui vivent leur scène jusqu'à brûler des églises, enfin qui est incarné, on va dire. Et donc c'est vraiment cette période-là dont Baptiste parle dans son livre, une période très particulière. Alors moi, je vais te poser, on va essayer de, il est 29, on va prendre 20 minutes. D'abord, je voudrais savoir pourquoi on travaille sur le black metal en Norvège, quand on s'appelle Baptiste Pilot.
C'est-à-dire que je suis arrivé en master et j'avais le choix, au départ je voulais faire un truc sur la musique contemporaine, bref. Et puis je m'étais vraiment remis au métal en allant au Hellfest, voilà. Et je m'étais dit, ah quand même, je faisais du métal au lycée, ce serait quand même con, ce serait pas mal de faire un truc. Donc j'hésitais entre faire un truc sur la techno de Détroit et faire un truc sur le black metal. Je me suis rendu compte qu'en fait le black metal c'était un peu une page blanche pour moi, j'y connaissais pas grand-chose et je me suis dit bon bah pourquoi pas, tentons. Donc j'ai fait un master sur la scène norvégienne, les débuts, et puis après j'ai fait ma thèse, mais c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était tellement dans les discours sur le métal, et notamment le métal extrême, cette scène norvégienne était tellement présente, et il y avait très peu de travaux universitaires dessus, et ça me paraissait vraiment un manque à combler. Alors j'ai pas choisi le plus facile, parce que bon, au départ je parlais pas norvégien, aller en Norvège, c'est quand même très cher aussi. Donc, je me suis dit, bah, en fait, là, il y a un vide, et si je peux apporter quelque chose à ma discipline et au Metal Studies, à la musicologie, à l'histoire de la musique, autant le faire sur une scène que tout le monde connaît, mais connaît mal ou connaît à sa façon, et je vais essayer de proposer un travail universitaire dessus. Voilà. Et c'était stimulant parce que bon, il y avait un peu tout à faire, donc ou à refaire en tout cas.
Alors du coup, est-ce que tu peux nous préciser comment tu as fait, sur quelle source tu t'es appuyé pour ta thèse ?
Moi, le départ, c'était de me dire, ok, il y a toujours 4 groupes qu'on cite tout le temps, Darkthrone, Burzum, Immortal, Mayhem. Je me suis dit, bon, il y a quand même d'autres groupes. Donc j'ai utilisé Metal Archives, qui est quand même la belle base de données participative. Il y a vraiment énormément, énormément, énormément de groupes de métal. Donc j'ai d'abord utilisé ça pour trouver tous les groupes de métal norvégiens qu'il y avait eu. C'est un paquet hein, pour un pays aussi petit. Puis ensuite, voilà, travailler sur les fanzines. Là, de la même manière, il y avait des fanzines qui avaient été mis à disposition, des fanzines norvégiens qui avaient été édités aussi. Donc il y avait déjà une forme de patrimonialisation. C'est à partir de là, vraiment, et puis utiliser là vraiment l'album comme source, aller chercher, gratter toutes les infos possibles, les studios, on enregistre où, on enregistre avec qui, et puis voilà, rassembler tout ça, créer une base solide pour pouvoir après analyser. Puis bon, là, moi j'adore les fanzines et le plaisir de se plonger dedans, de lire les choses, d'avoir un peu l'impression de toucher l'époque via les chroniques d'albums, les interviews. Enfin voilà, c'était passionnant.
Alors, est-ce qu'en trois mots, tu peux résumer la progression chronologique qui est dans ce livre ? C'est-à-dire, bon, t'as divisé, y a une première partie qui est divisée de manière chronologique. Est-ce que tu peux expliquer, en fait, pourquoi t'as fait ça ?
Parce que je fais de l'histoire. En fait, la scène norvégienne, on parle quasiment toujours que des premières années, jusqu'en 93-94. C'est un peu vu comme une espèce de période dorée. Et le reste, quand on voit les écrits, c'est un peu un vide. C'est-à-dire qu'à partir de 95, on a l'impression qu'il n'y a plus de groupe de black metal. En tout cas, ils ne produisent plus. Moi, je voulais vraiment me concentrer sur cette décennie des années 90 parce qu'elle était quand même fondamentale et il se passait énormément de choses. Et puis, il y avait aussi la question de... le black metal, apparemment, ça existait aussi dans les années 80. Alors, c'est quoi cette histoire ? Pendant très longtemps, je n'ai pas compris. Et puis en faisant le travail de recherche, j'ai à peu près compris ce qui se passait. Donc on peut dire que dans les années 80, le black metal est plutôt un thème et une imagerie satanisante, antichrétienne. Mais c'est pas vraiment encore un style musical. Voilà, donc parfois on parle de... Imaginez un groupe comme Morbid Angel, donc de Floride, que maintenant, pour nous, c'est du death metal, c'est sûr et certain. Mais à l'époque, c'était considéré comme... du black gore metal, enfin voilà, les catégories n'étaient pas encore fixées. Donc il y a tout ça, tous les années 80, il y a tout un discours qui s'est cristallisé autour des années 80. Voilà, le black metal, c'est Venom, c'est Bathory, c'est L.A. Hammer. Et puis dans les années 90, il y a les Norvégiens considèrent que le death metal est devenu beaucoup trop populaire, notamment les Suédois, ces maudits voisins, et vont décider de se dire, mais non, nous, on est l'héritage de l'underground, donc on va se dire black metal. On va, voilà, et puis, ce qui se passe, c'est que les Norvégiens ont, au fur et à mesure, développé un style musical vraiment particulier, ce qui va devenir le style black metal plus général pour tout le monde. Donc c'est cette première phase vraiment très underground, vraiment jusqu'à 93, et puis après, bon, ils crament des églises, ils se tuent, bon. Donc ça devient extrêmement voilà, ça fait la une. Et à partir de 94, 95, 96, ça rentre de plus en plus dans un système de label. Voilà, t'as des groupes qui signent chez Nuclear Blast, qui était déjà à l'époque un énorme label. On fait du black metal symphonique, voilà, des groupes comme Dimmu Borgir, que maintenant on connaît très bien. Et puis le black metal va commencer à se diffuser et puis à devenir, on va dire, moins underground, moins extrême. Donc comme d'habitude, il y en a toujours les vieux de la vieille qui vont gueuler, qui vont dire « Ah, mais moi je me souviens, début 90, c'était les cassettes, maintenant ça passe à la télé ». Un bon exemple, par exemple, il y a des groupes de black metal norvégiens qui font l'équivalent des Victoires de la musique norvégienne, qui passent à la télé, sachant que 4 ans avant, ils passaient en procès en direct, enfin pas en direct, mais ça faisait la une. Il y a un vrai déplacement, et puis maintenant, la Norvège a très bien compris que c'était un atout de soft power, c'était culturellement, c'était très important. Donc il y a l'anecdote Ouais, alors il y a le tourisme. Quand vous allez à Oslo, vous trouvez plein de métalleux qui font leur petit pèlerinage. Les ambassadeurs sont formés au black metal. Les départements de civilisation scandinave, alors c'est pour la Norvège, mais pour la Suède et pour la Finlande, plein d'étudiants s'y intéressent parce que ils ont découvert ces pays-là via leur musique. Donc c'est un vrai enjeu culturel pour eux, d'attractivité.
Il y a un chapitre qui est consacré, donc, je le disais tout à l'heure, à satanisme et paganisme. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Au départ, le black metal, c'est quand même... La thématique, elle est satanisante. Antichrétien, surtout, mais vraiment satanisante. Et puis, au fur et à mesure, ils vont se dire, mais attendez, parler de Satan, croire en Satan, c'est encore être un peu chrétien, quand même. Il y a quand même un souci. Donc, ils suivent l'exemple du groupe suédois Bathory, et commencer à vraiment aller sur des thématiques païennes, les vikings, sachant que les Scandinaves ont quand même cette conscience d'avoir cet héritage viking. Voilà, tout le roman national du 19e se retrouve. Donc en fait, c'est des vrais continuateurs, même si des fois, ils refusent de le dire. Moi, j'avais interviewé le chanteur de Enslaved. Je lui ai dit, mais vous ne trouvez pas des ressemblances entre ce que vous faites et le 19e romantique? Il me dit, oh, pas du tout. Moi, je viens de la social-démocratie. Je ne sais pas de quoi tu me parles. Je lui ai dit, bon, ok, d'accord. Mais non, en fait, voilà, il y a une continuité aussi historique, culturelle, et récupère ça. Et puis, c'est là où on arrive sur les trucs un peu sales, c'est-à-dire que, en fait, leur anti-christianisme, il est quand même assez antisémite, puisqu'en fait, le chrétien est vu comme étant, le christianisme comme une religion exogène à l'Europe du Sud, une religion sémite, une religion qui va déviriliser le viking. Voilà, donc il y a toute une histoire aussi, ils ont une vraie... histoire autour de, voilà, nous avons été trompés par les chrétiens, ce sont des colonisateurs. Voilà, bon, c'est des discours qui, malheureusement, dans les années 90, ça choquait, mais maintenant, malheureusement, c'est des discours qu'on peut entendre de manière beaucoup plus ouverte, on va dire, avec la montée de l'extrême droite, quand même. Donc, voilà, bon, ça me paraissait aussi important de... Voilà, de pointer aussi, c'est quand même une forme d'antisémitisme, même si voilà, ils cachent un petit peu leur discours, il faut quand même le dire clairement. Voilà.
Est-ce qu'on peut dire que le black metal norvégien, c'est une contre-culture?
Ah, ça, c'est une grande question, ça. D'une certaine manière, oui. Ça, c'est vraiment la question. La manière dont c'est structuré, oui, mais par exemple, d'un point de vue idéologique, moi je reste quand même convaincu que reprendre les idées xénophobes qu'il y avait à l'époque en Norvège dans les années 90, mais les faire de manière un peu plus extrême, au fond, t'es pas si contre-culturel que ça. Si tu reproduis des inégalités, si tu reproduis des discours racistes, quand tu lis des choses sur l'immigration pakistanaise dans les années 90 en Norvège, tu te dis bon, ok. Et ce qui est troublant, c'est de voir le comment ça fait écho à notre époque en plus. C'est bon. Quand j'ai écrit tout mon chapitre sur l'idéologie, j'ai passé 2 mois pas très bien. Hein. Je vais le dire clairement. La partie d'avant, c'était voilà. Mais c'est vraiment travailler sur l'idéologie de cette scène-là. Bon, ça te donne pas non plus grand espoir parfois.
Philippe en parlait avec Christophe tout à l'heure. C'est quoi la place des femmes dans le black metal?
Ah là là, bah alors ça c'est incroyable. Ça. C'est-à-dire qu'il y a quasiment pas de femmes. Mais c'est quasiment pas de femmes quand j'ai dit. Moi, j'avais regardé, qui était musicienne, et puis j'avais compté les musiciennes de studio, j'en ai compté à peu près 25. C'est-à-dire que 25, c'est à peu près le nombre de membres qu'il y a eu dans Gorgoroth dans les années 90. Donc, autant vous dire qu'il n'y en a pas. Ou c'est des rôles un peu. Moi, comme d'habitude, hein, c'est des rôles cachés, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont organiser des concerts, qui vont. Être dans des fanzines, mais vont rarement écrire, mais vont plutôt être en soutien. Voilà, en fait, il n'y a quasiment pas de femmes. Et même maintenant, hein, ça reste extrêmement masculin. Après, je peux comprendre que les femmes n'aient pas très envie de se retrouver d'ailleurs entre 45 virilos qui se montent la tête sur comment laisser les enfants de Thor. Hein. Je veux dire, bon, voilà, c'est pas très accueillant. Hein. Faut pas. Je suis toujours un peu taquin, mais. Mais bon, je peux comprendre. Je me souviens d'un article de Combini qui disait, il y a des années, hein, à l'époque, je cite Combini, je sais, qui disait « Oh là là, le black metal, c'est vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de femmes. » Quand j'ai lu l'article, je me suis dit « Bah oui, je comprends, t'es pas très ouvert en fait aux femmes. Je peux comprendre que t'aies pas envie de... » Après, ça change, hein, il y a quand même des labels montés par des femmes... par des gens queer, enfin voilà, ça bouge. C'est-à-dire que la passion de la musique, de cette musique-là, de cette esthétique-là, si on vire tous les trucs fachos, il y a quand même une volonté de faire vivre cette musique-là et le genre musical d'une autre manière. Et ce qui est tout à fait louable, et je trouve qu'avoir cette énergie, notamment en France, c'est tout à fait important.
Et dernière question, c'est est-ce qu'il y a un rapport avec le punk ?
Alors, il détestait les punks. C'est-à-dire que, voilà, les gauchistes. Hein. Il y avait un squat qui s'appelait le Blitz à Oslo. Alors, une fois, je suis passé devant un bus, j'ai fait « Oh, c'est ce truc-là » Bon, ça ressemble à un squat. Hein. Bon, ouais, pas très étonnant. Il détestait les punks. Mais voilà, ce qui est passionnant avec le métal extrême, c'est que en fait, ça utilise les mêmes techniques, les mêmes manières de faire que le punk. À quel point le punk a... Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment été la graine plantée pour que... Ce serait hyper intéressant. Enfin, bon, il y a beaucoup de liens entre métal et punk, mais ce serait vraiment très intéressant de voir comment la graine des pratiques punk a essaimé partout, et notamment dans le métal. La pratique des fanzines, la pratique du mail order, tout ce qui était tape trading, donc ouais, on s'échange des cassettes, mais enfin, de manière internationale. Même le disquaire donc LVT, qui était un des hauts lieux de la scène norvégienne. Bon, bah, c'était DIY, quoi. Voilà. Il savait pas du tout gérer un business, mais tu viens, vas-y, bah, tu passes à la caisse, tu l'encaisses. Oh, tu bosses pas ici, c'est pas grave. Vas-y, on fait des fêtes dans la cave. On crée nos propres labels, parce que de toute façon, bah, personne veut nous signer. Donc, oui, il y a quand même des incohérences fortes, en tout cas dans le modèle. Après, dans les rapports, plus compliqués.
Merci Baptiste. Alors vous avez compris, si vous voulez lire des livres qui parlent de racisme, d'homophobie, de drogue, il y en a deux cette année.
Ouais. Voilà. Je parle quand même de musique aussi, hein, oui, d'histoire, d'imaginaire. Voilà. Bon, la partie idéologique, faut.
Voilà, donc dans la collection En Marge. Et on fait un spoiler pour les prochains. Le prochain, ça sera celui de Manuel, qui sera consacré à la scène punk DIY. On fera une exception dans l'année, on va essayer d'éditer les actes du colloque Berrurier Noir. Exceptionnellement, on fera peut-être une autre couverture, Gilles, que celle de d'habitude, avec les dessins de Rodolphe Urbs, du Canard Enchaîné, qui avait dessiné pour tout le colloque. Et celui d'après, ça sera deux femmes, pour compenser le déficit féminin dans notre collection. Ça sera Audrey Thuaillon de Mézy et Clémentine Houg, qui, ça s'appelle comment ? Dictionnaire insolent, non, insoumis ? Dissident, dictionnaire dissident du temps. Voilà. Merci à Christophe et merci à Baptiste. On n'est presque pas en retard. On prend 10 minutes et à 16h pétante, on recommence avec les trois coms.
Je peux poser une question à...
Vas-y, va me poser une question, j'en suis sûr.
Là où il y aurait peut-être un point avec le punk qui je trouve assez évident pour moi, c'est qu'il y a eu quand même durant les années 90 il me semble dans le black metal et 2000 aussi quand même un rapport de l'authenticité à un son qui serait inesthétique, non esthétique comme je l'avais dit effectivement avec une glorification du lofi. C'est plus authentique, c'est d'autant plus authentique que c'est dégueulasse quoi, en termes de son.
Ouais.
Donc il y a quand même ce truc-là, notamment de Varg Vikernes qui est aussi enregistré en prison. Il a enregistré en prison parce qu'il avait buté l'un de ses camarades, effectivement, mais il a enregistré en prison et donc du coup avec les moyens du bord. Et c'est justement parce qu'il a enregistré en prison avec les moyens du bord que c'est devenu, au-delà de la qualité de l'œuvre, après chacun en pensera ce qu'il veut, mais c'est devenu effectivement un objet, une œuvre du coup dans le black metal, parce que c'était comme si c'était presque voulu le fait que ça soit dégueulasse quoi. Donc il y a ce point-là. Et une petite question aussi qui est une blague au début mais pas une blague après à la fin, est-ce que vraiment ils ont fait des colliers avec des bouts d'os de crâne du chanteur Dead? Et au-delà de la blague, à quel point il n'y a pas un imaginaire qui est construit sur des actes qui ne pourraient peut-être pas être autant à la hauteur que l'imaginaire que l'on s'en fait quoi. Donc dans les faits, les meurtres, ok machin, mais dans les faits, est-ce qu'il y a eu autant de déchaînements de violence qu'on veut bien se le faire croire quoi ?
Alors, pour la question de sonner dégueulasse, effectivement, bon, par exemple, Darkthrone, quand ils enregistrent leur premier album, c'est du death metal, ça sonne hyper clean, enfin, ça sonne death metal suédois, fin 80, début 90. Après, il y a un choix de... En fait, leur modèle, c'est la cassette de démo qu'on s'échangeait dans les années 80, Donc enregistrer et enregistrer un son lo-fi, comme on dit. Alors par contre, il faut un peu démystifier ça, c'est-à-dire que certes au début ça sonne pas très bien, volontairement, mais assez vite, et notamment quand il y a eu un succès commercial et que voilà, bon, les labels ont commencé à dire ce serait bien, mais bon, il va falloir sonner autrement. Et en fait, on se rend compte qu'à partir de 95, les groupes ont un son en fait hi-fi assez classique. Par contre, ça crée des tensions. Par exemple, on a dit à Satyricon, non, mais c'est bon, là, vous êtes vendu. Et le batteur répond, non, mais c'est bon, c'est pas vendu, c'est pas parce que notre album sonne professionnel qu'on n'est plus authentique. Voilà. Donc, il y a des débats autour de ça. Alors, la question de du collier d'os, effectivement, il semblerait que oui, pour de vrai. Donc, il faut savoir qu'un chanteur s'est suicidé et il semblerait que le guitariste ait récupéré les bouts d'os et en effet un collier et les expédié. Il semble que c'est vrai. Oui, c'est glauquin. Alors, un imaginaire à la hauteur des actes, enfin, des actes à la hauteur de l'imaginaire, je pense que déjà, un suicide, voire plus, deux meurtres et je sais pas combien d'églises cramées, c'est déjà à la hauteur. Hein, je pense que c'est pas besoin de. pas besoin de plus. Hein, je pense que. Sachant que, bon, le black metal, c'est quand même un des rares cas où l'imaginaire satanisant, on va dire, et puis de violence symbolique qu'il peut y avoir dans les paroles. Passe à l'acte. Vraiment, il y a ce passage à l'acte et en fait qui est quand même très glauque. Un des musiciens dit on était plus proche d'un scénario à Charles Manson, quoi. Bon, quand tu vois le tu te dis bon, ok les gars, vous avez quand même été trop loin, quoi. Sachant qu'en plus, enfin, c'était des jeunes adultes, voire des ados, et ils se montaient la tête. Hein. C'était c'est assez étonnant de se dire, mais à quel point comment ça a pu déraper, quoi, à ce point-là. C'est bon.
Merci beaucoup, Baptiste. On arrête là, je suis désolé. Merci.